France Culture.
France Culture, grand reportage, Catherine Pétillon.
Les Kurdes se sont toujours fait massacrer dans l'histoire et manipulés par les Turcs. Ils sont allés voir Öcalan et d'un mot, ils décrètent un cessez-le-feu pour le PKK. Ce n'est pas possible.
Pour faire la paix, chacun doit faire un pas vers l'autre. Malheureusement, on ne libère pas les prisonniers politiques et les intellectuels. Pour réussir la paix, il faut être tous ensemble. Le peuple kurde, seul, n'y parviendra pas.
La paix, elle n'est pas seulement pour les Kurdes, mais pour la région, pour toutes les populations du Moyen-Orient. En tant que Kurdes, nous la désirons tant, cette paix, pour toute la région.
C'est un appel qui pourrait mettre un terme à plusieurs décennies de guerre. Celui d'Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, la guérilla kurde qui combat l'armée turque. Un appel à déposer les armes et à dissoudre le parti. Bien qu'emprisonné depuis 1999, Öcalan reste le leader des Kurdes. Et sa lettre, rendue publique le 27 février dernier, ouvre la voie vers un possible processus de paix. Le PKK a d'ores et déjà déclaré un cessez-le-feu. Le conflit, qui dure depuis plus de 40 ans, a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Des villages ont été rasés, des villes bombardées, des centaines de milliers de Kurdes déplacés par les combats. Cette paix, les Kurdes y aspirent depuis des années. Mais à quelles conditions est-elle possible? Et quelle forme pourrait-elle prendre? Renoncer à la lutte armée, est-ce la fin du PKK ou le début de sa transformation? Comment la population kurde réagit-elle un mois après cet appel qualifié par beaucoup d'historique, mais dont l'avenir reste incertain? Turquie, une paix est-elle possible avec les Kurdes du PKK? C'est un grand reportage de Marie-Pierre Véraud. Et pour en parler, nous sommes en studio avec vous ce soir. Kubra Sayer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en sciences politiques, doctorante à l'EHESS et enseignante à Sciences Po. Vous travaillez plus particulièrement sur la dimension internationale de la question kurde. Nous en parlerons ensemble. Et puis, nous sommes aussi en ligne avec vous, Marie-Pierre Véraud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de France Culture en Turquie et vous vous êtes rendue à Diyarbakir, qui est la capitale en quelque sorte des Kurdes en Turquie, pour savoir comment ils réagissent face à cette perspective de paix.
Oui, et c'est vrai que quand cette initiative venue donc de Turquie a été lancée, c'était en octobre dernier, cela a été comme un coup de tonnerre, hein, parce que c'est l'allié du président Erdogan, Devlet Bahçeli, qui l'a formulé, lui le patron du MHP, c'est en partie ultranationaliste d'extrême droite, et c'était l'ennemi juré de Öcalan et des Kurdes. Il avait même évoqué le souhait de voir Öcalan pendu. Alors, quand Bahçeli dit que si le chef du PKK annonce le dépôt des armes et la dissolution de son mouvement, il pourrait être libéré et serait invité à venir s'exprimer devant l'Assemblée nationale turque, tout le monde a été pris de court. Mais des pourparlers se sont engagés. Une délégation du parti pro-kurde, l'ODEM, a été autorisée à lui rendre visite dans son île prison d'Imralı. Plusieurs allers-retours, des échanges avec Bahçeli jusqu'à ce jour de février, donc, où l'appel est lancé.
Mais la Turquie n'a pas autorisé la diffusion de l'enregistrement d'Öcalan faisant cet appel, Marie-Pierre. C'est une lettre qui a été lue.
Oui, effectivement, la Turquie a refusé que soit diffusée la voix, voire une vidéo de Öcalan faisant cet appel. C'est donc une lettre qui a été lue dans laquelle il constate que les conditions historiques et politiques qui ont présidé à la création du PKK ne sont plus réunies, dans laquelle il demande donc d'abandonner les armes et de dissoudre le Parti des Travailleurs du Kurdistan, un appel qualifié d'historique. Mais dès le moment où il a été rendu public, en fait, cela a suscité un certain malaise parce que dans cette lettre, il n'est fait mention d'aucune contrepartie de la Turquie. C'est comme une capitulation sans condition. Et cela pose des questions d'ailleurs toujours en suspens. Öcalan ne parle même pas des prisonniers politiques, dont le plus célèbre, le dirigeant politique kurde, Selahattin Demirtas, très populaire et emprisonné depuis près de 10 ans. Donc effectivement, pour essayer d'en apprendre plus, nous avons eu envie d'aller sonder les cœurs des Kurdes dans leur capitale de Diyarbakir pour savoir dans quel état d'esprit ils sont. C'était le 21 mars dernier, à l'occasion de Nowruz, le nouvel an kurde, premier nouvel an depuis cet appel qui ouvre peut-être la voie vers la paix.
Et on écoute votre reportage.
Tambour, danse, musique, Diyarbakir se presse aux célébrations de Nowruz, des célébrations que certains veulent voir cette année placées sous le signe de l'espoir d'une paix, enfin. Des yeux de braise soulignés de col, Rojda s'est parée d'une robe de fête toute brodée de rouge et noir.
Nowruz, c'est la paix, ça nous renvoie aussi à la liberté. Ça signifie tant de choses. Tous ces gens que nous avons perdus, toute cette douleur, c'est pour nous souvenir que nous allumons le feu de Nowruz. Malgré tout cela, c'est le feu de la liberté, il nous apporte la joie. La paix, nous l'avons toujours voulu et nous la souhaiterons toujours. Mais ce Nowruz, celui de 2025, pour le peuple, il est particulièrement précieux. Il vient après l'appel de notre chef, Apo. C'est un appel important. Il l'a dit. Nous allons l'écouter et amener encore plus d'enthousiasme. Je souhaite que ce Nowruz apporte la paix à notre peuple, que tout le monde retrouve la liberté. J'espère qu'il n'y aura plus de martyrs ni d'assassinats. Comme chaque année, nous croyons à la paix. On y a cru de tout temps. On continuera à y croire et elle finira par arriver.
Rien ne douche l'enthousiasme de Rojda, ni les centaines de policiers anti-émeutes qui ont bouclé la route menant au pré, accueillant les célébrations, ni ces kilomètres de barrières métalliques, ces barrages filtrants où il faut se faire fouiller, ces heures d'attente avant que la police ne permette à la foule de passer, ni les avions de chasse et hélicoptères qui survolent le rassemblement. Mehmet observe les cohortes de policiers.
Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Moi, j'ai 57 ans. Depuis ma naissance, dans cette région de l'Est, du Sud-Est en particulier, je les ai toujours vus. Ils sont partout. Rien ne change. S'ils venaient assurer la paix, d'accord, pas de problème. Moi, je voudrais qu'ils partent et ne reviennent que s'il y a des troubles pour restaurer l'ordre ou évacuer les blessés. Ils ne devraient pas s'en prendre à la population comme ça. Ce Nowruz, on devrait pouvoir le fêter en toute liberté. Vous savez, ils peuvent vous arrêter à tout moment. Quand vous traversez la rue, ils vous demandent vos papiers, ce que vous faites là. Mais pourquoi venir aujourd'hui? C'est la fête. Leur présence n'est pas nécessaire parce que nous célébrons la paix et la fraternité. Il n'y a pas plus beau que la paix. J'aimerais y croire, j'y crois. Et si Dieu le veut, elle viendra. Depuis des millénaires, Turcs et Kurdes vivent ensemble. Il faut que chaque peuple ait ses droits, les Turcs, les Kurdes, les Lazes, les Tcherkèzes, les Arabes. Au-delà des différences, nous sommes tous des êtres humains. Chaque peuple a le droit à sa langue maternelle. Et tout le monde doit respecter les différentes religions et les différentes ethnies.
La police, les arrestations, Orhan, maçon de son état, en a connu plus que son compte.
Moi aussi, comme Kurde, j'ai eu ma part de malheur. Entre 2013 et 2016, j'ai subi de nombreuses pressions de la part de l'État. Mes enfants en sont témoins, je ne l'oublierai jamais. Chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, mes enfants étaient terrorisés, ils se mettaient à pleurer. Et ils sont toujours traumatisés. Une fois, ils sont venus me chercher, ils m'ont passé les menottes. Mon fils, le petit Mohamed, s'est précipité en pleurant et s'est mis devant moi. Ce moment-là, je n'arrive pas à l'oublier. Je ne parviens pas non plus à oublier le soir où ils ont frappé à la porte. Ma fille dormait. Elle a bondi en panique de son lit. Je ne sais pas pourquoi ils venaient, sans raison. Peut-être parce que j'avais les cheveux longs et que je portais une barbe. Ils peuvent vous enfermer pour un rien, une photo. Le fait même d'être ici peut être un prétexte pour nous arrêter. Je n'appartiens à aucun mouvement, mais c'est juste le fait d'être kurde. Cela arrive à tous les Kurdes.
Mais il garde espoir et est venu avec ses trois enfants fêter ce nouvel an.
La paix, elle n'est pas seulement pour les Kurdes, mais pour la région, pour toutes les populations du Moyen-Orient. Regardez, ma fille s'appelle Arin, c'est un prénom kurde. La grande s'appelle Bouchra, c'est un prénom turc. Et le petit, c'est Mohamed, un prénom arabe. On représente toutes ces civilisations. En tant que Kurdes, nous la désirons tant, cette paix, pour toute la région. Mais pour vous dire la vérité, nous, le peuple kurde, nous sommes inquiets. Nous attendons quelque chose de concret. Il faut convaincre les deux côtés. Il y a des milliers de prisonniers politiques, tout le monde le sait. Il y a des journalistes incarcérés, des hommes politiques, des défenseurs des droits de l'homme, des féministes. Tous ces gens qui crient « droit, loi, justice » sont derrière les barreaux. On sait tous que ceux qui élèvent la voix sont arrêtés. On sait tous aussi que tous ces gens sont des exemples, qu'ils peuvent nous guider. Je pense qu'il faut les libérer pour que tous ces prisonniers puissent montrer le chemin au peuple.
Un peu à l'écart, un vieux combattant du PKK garde l'air sombre. L'un de ses fils est au front avec la guérilla. Il a perdu 4 de ses enfants dans la guerre. Lui-même a été emprisonné à Diyarbakır, dans la prison militaire numéro 5, de sinistre mémoire, classé comme l'un des pires lieux de détention au monde. Il montre ses mains, sa bouche. Il a eu les dents et les ongles arrachés.
La paix, je n'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Les Kurdes se sont toujours fait massacrer dans l'histoire et manipulés par les Turcs. Ils sont allés voir Öcalan et d'un mot, ils décrètent un cessez-le-feu pour le PKK. Ce n'est pas possible. Si c'était vrai, les Turcs devraient aussi faire un pas. Parce que la paix, elle se fait à deux. Elle ne se fait pas tout seul. Nous, on veut la paix. Mais eux veulent la guerre. Il faudrait que le président de la République dise au moins quelques mots. Écoute, il y a eu tellement de guerres dans le monde. Et la paix a toujours fini par arriver. Une guerre, ça dure 5 ans. Mais ici, la Turquie, ça fait 50 ans qu'elle nous fait la guerre. Alors maintenant, c'est peut-être une chance pour le peuple turc et pour le peuple kurde. Si nous ne la saisissons pas, tout sera foutu.
Les Kurdes ont déjà connu ces espoirs de paix en 2013, avec de précédents pourparlers qui se sont terminés par un bain de sang. Des combats, des bombardements, une guerre qui a déplacé des centaines de milliers de personnes, causé des milliers de morts, vu des villes lourdement frappées. Alors ce sentiment d'urgence, cette lassitude, tous les partagent ici, et pas seulement les vieux combattants. Non loin de la scène où se succèdent les orateurs avant d'enflammer le feu de Nowruz, sous le portrait de Jalan accroché dans les arbres, Berivan, la trentaine, se bat pour faire vivre la langue et la culture kurde.
Aujourd'hui c'est Nowruz. Cette année est tellement importante pour nous. Déjà en 2013, on a connu un Nowruz historique. Il parlait aussi de paix, mais il n'y a rien de concret. Or, il faut des actes, et en ce moment encore, ils bombardent le Rojava. En fait, aujourd'hui, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde pour faire la fête. Peut-être que les gens n'y croient plus, qu'ils ne font pas confiance au gouvernement turc, parce qu'ils sont fatigués, vraiment fatigués. Cela dure depuis 50 ans. Ce n'est pas facile, mais nous avons de l'espoir pour notre nation, pour notre terre. Moi, j'ai encore de l'espoir.
Nous avons hope pour notre nation, notre land. Now I am hopeful actually. I saw some photo Reber Apo. You know who? Abdullah Öcalan.
J'ai vu le portrait d'Apo. Vous savez qui c'est? Abdullah Öcalan. Je n'en revenais pas. Les années précédentes, il ne nous laissait pas l'accrocher. Mais aujourd'hui, il est là. Et nous, les Kurdes, nous voulons y croire. Pour la dernière fois, peut-être. Parce que nous n'en pouvons plus. Je suis jeune, mais je suis fatiguée. Nos mères, les mères pour la paix, chacune a perdu 2 ou 3 enfants à cause de cette guerre. Mais elles disent pourtant, nous voulons la paix.
Comme beaucoup de Kurdes, Berivan n'arrive toutefois pas à percevoir les intentions du gouvernement turc.
On ne comprend pas trop ce qui se passe. On veut juste y croire. Nous sommes prêts et c'est au gouvernement turc de prendre des décisions. Pas seulement parler, ils doivent agir.
I don't know what their plan, but maybe in future we have at least education in our language.
Je ne sais pas trop ce qu'ils ont dans la tête. Peut-être que nous pourrions avoir au moins une éducation dans notre propre langue. J'ai voyagé en Europe, en Inde. Partout, les gens peuvent parler leur propre langue. Mais ici, ni au collège, ni en primaire, ni à l'université, nous ne pouvons suivre des cours dans notre langue. C'est terrible pour toute nation, pas seulement pour les Kurdes. Ma mère parle Kurmanji, ma grand-mère le Zaza. Et le Zaza va disparaître. Nous devons faire vite. Nous devons faire vite pour notre nation.
Ronia, venue en bande célébrer ce nouvel an kurde, a aussi sa petite idée.
Pour faire la paix, chacun doit faire un pas vers l'autre. Aujourd'hui, on amnistie les violeurs, les auteurs de féminicides et les harceleurs. Malheureusement, on ne libère pas les prisonniers politiques et les intellectuels. Il faut les libérer. Et puis, vous voyez ce qui se passe à Istanbul. Ils ont des problèmes, eux aussi. Parce que le CHP et les autres partis ne se sont pas mobilisés quand les maires kurdes étaient emprisonnés et remplacés par des administrateurs. Et maintenant, c'est leur tour. Le pouvoir exerce sa mainmise sur eux à présent. Ce que je veux dire, c'est que pour réussir la paix, il faut être tous ensemble. Le peuple kurde, seul, n'y parviendra pas.
A partisinden, B partisinden, C partisinden, tüm partilerin birlik olup bu fırsatı kaçırmamalarının gerektiğini düşünüyorum.
Je pense que les différents partis devront s'unir pour ne pas rater cette occasion de paix. Et si l'on veut qu'elle réussisse cette paix, il faut aussi que le peuple kurde ait droit à sa langue et à sa culture. J'étais sur la place quand ils ont lu la lettre de Jelen. Quand je l'ai entendue, j'étais attristée du contenu parce que la résistance du peuple kurde dure depuis longtemps. Il y a eu tant de meurtres durant des années. Mais quand la lettre a été lue, on ne parlait pas de contrepartie de la Turquie. Il était juste question d'abandonner les armes sans condition.
Zaten konuşulduğunda da heyet açıklama yaptığında koşulsuz şartsız bir silah bırakmadan söz edildi, keza kabul edildi ve
actuellement, un cessez-le-feu a été décrété. Le peuple croit en son parti et en son leader. Il avance selon ce qui lui a été dicté. Mais il y a des familles brisées, d'autres qui n'acceptent pas ce processus de paix. Il faut leur expliquer pourquoi on fait cette paix.
Kabul etmeyen aileler var. Bunun için de anlatmak gerekiyor onlara nasıl olduğunu.
Rendre compte de ce qui se passe au Kurdistan, expliquer ce processus de paix, c'est l'une des missions de Mourad Bayram, journaliste, responsable de Botan International, qui, avec l'aide de Reporters sans frontières, assiste les journalistes kurdes. Être journaliste kurde, un véritable combat, explique-t-il.
Was never easy in Turkey to be Kurdish journalist because when you are Kurdish journalist from perspective of state you are doing something connected with terrorism.
Il n'a jamais été facile d'être journaliste kurde en Turquie car lorsque vous êtes journaliste kurde du point de vue de l'État vous faites des choses liées au terrorisme. Et pour les Kurdes engagés, lorsque vous travaillez en kurde, vous devez être très politique. Vous ne pouvez pas simplement partager quelque chose à propos de la culture. Vous ne pouvez même pas partager les mêmes informations que celles que vous pouvez trouver dans les médias turcs. Lorsque nous sortons et que nous demandons aux gens de les interviewer, même les Kurdes ont peur de parler en kurde aux médias kurdes. C'est pourquoi les médias kurdes en Turquie ont une présence très symbolique. En Turquie, il existe des centaines de milliers de sites web en turc, mais en kurde, pour environ 25% de la population, soit plus de 20 millions de personnes, il n'y a que 5 sites web. L'un d'eux est le nôtre, Botan Times, le plus important. Et pour les autres, deux d'entre eux sont directement liés au parti DEM. Deux d'entre eux sont le fait de personnes individuelles. Il n'y a qu'un seul site web en kurde adossé à une institution, et c'est celui où vous êtes. C'est très, très symbolique.
It's like very, very symbolic. And also in Turkey, there is 477 official TV channels. There is only one TV channel that share Kurdish news bulletins. It's TRT Kurdi.
En Turquie, il existe 477 chaînes de télévision officielles. Il n'y a qu'une seule chaîne de télévision qui parle de l'actualité kurde, c'est TRT Kurde, la chaîne dirigée par l'État turc. En outre, sur environ 2000 journaux publiés quotidiennement en Turquie, il n'y a aucun quotidien kurde. Nous n'avons qu'un hebdomadaire. Et lorsque la police voit un journal en kurde, elle le saisit et arrête les gens avant même de comprendre ce qui est publié, sans connaître le kurde. Ce n'est pas nécessaire. Dans cette atmosphère, le journalisme kurde est très, très dur.
In that atmosphere, Kurdish journalism is very, very tough. 2 days ago, we translate a news from France 24.
Il y a 2 jours, nous traduisions un article de France 24 qui expliquait qui sont les Kurdes et où ils vivent. Des informations que vous pouvez trouver sur Wikipédia ou n'importe où. Et une cour de justice a bloqué nos informations pour soutien au terrorisme. Alors que ce sont des informations partagées par une chaîne de télévision internationale. Ce sont des informations sur les Kurdes que vous pouvez trouver partout. Mais en fait, il y a quelques mots-clés. Lorsque vous écrivez ces mots-clés, ils vous trouvent et vous punissent. Les mots, les Kurdes, le Kurde, le Kurdistan. C'est pourquoi nous nous auto-censurons. Chaque jour, pour chaque article, nous nous censurons. Nous ne partageons pas de cartes ou de photos de dirigeants ou des choses comme cela. Nous devons y réfléchir encore et encore.
Et Mourad ne peut se départir d'une certaine crainte dans son travail.
Je ne me sens pas en sécurité, émotionnellement et physiquement. Par exemple, nous avons des archives et l'un des plus grands problèmes des médias kurdes est celui des archives. Soudainement, la police arrive et prend tout. Les archives, les appareils photos, les ordinateurs, tout. Les micros aussi. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire avec nos micros ou nos livres? Oui, tout est emporté. C'est pourquoi nous pensons qu'à tout moment, quelqu'un peut venir tout prendre.
We are hiding archives, saving in clouds. You never feel safe, even in digital media or in physical studio anywhere.
Nous cachons les archives, les stockons sur le cloud. Nous ne nous sentons jamais en sécurité, où que l'on soit sur un média numérique, ni dans un studio physique, ou n'importe où. Et lorsque vous avez une carte de presse, par exemple, je dirige un média et je paye des impôts parce que j'ai une organisation de presse. Et elle apparaît dans le journal officiel du ministère des Finances. C'est très officiel. Et pourtant, lorsque vous avez une carte de presse de votre organisation, celle-ci n'est pas reconnue. Et dans de nombreux endroits, la police dit « Seuls peuvent entrer ceux qui sont accrédités par le bureau de presse du président ». C'est un autre obstacle fait aux Kurdes. Car dans l'histoire de la Turquie, il n'y a pas de journaliste kurde qui ait pu obtenir ce type d'accréditation pour travailler en zone kurde. Zéro.
Zéro. It's meaning you are blocking Kurdish journalists on the land. Even when an earthquake happened here, as a Kurdish journalist, you could not go there.
Cela signifie que vous empêchez les journalistes kurdes de travailler sur le terrain. Même lors du tremblement de terre ici. En tant que journaliste kurde, vous ne pouviez pas y aller parce que « Oh, vous avez besoin d'une carte de presse du bureau du président !» Même pour couvrir l'actualité de votre propre quartier. Je n'ai pas obtenu cette carte de presse. J'en ai une au nom du New York Times et j'ai pu couvrir le séisme. Un journal des États-Unis peut venir à Diyarbakir et y couvrir le tremblement de terre. Un journaliste de Diyarbakir ne le peut pas. C'est un autre exemple d'injustice.
It's another unfair situation. There is no place for press. There is a big pressure on Kurdish media.
Il n'y a pas de place pour la presse. Les médias kurdes sont soumis à une forte pression. La forte pression ne vient pas seulement de l'État. L'État, nous en avons peur chaque jour, mais elle vient aussi de notre propre communauté. Ces groupes qui veulent que nous chantions les louanges de tel parti, de tel dirigeant, parce que les Kurdes sont très politisés et que tous les partis politiques veulent que nous soyons de leur côté. Mais on ne peut pas être partisan. Si nous commençons à faire ça, nous cesserons de faire du journalisme.
We will stop to do journalism.
Diyarbakir, hoş Diyarbakir. Diyarbakir, hoş Diyarbakir.
La société kurde apparaît déprimée, l'économie aussi est au plus bas, et peu osent imaginer que la paix viendra relancer les affaires. Dans la grande rue de Diyarbakır, les commerces tournent au ralenti. Mehmet tient un restaurant empli de saveurs de foie grillé, c'est la spécialité, et d'herbes rôties. La plupart des tables sont restées vides en ce jour de fête.
Les affaires vont mal en ce moment. Tu ne gagnes rien. On le voit avec les clients qui viennent. Ils se privent, ils ne dépensent rien du tout. Surtout les étudiants. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas les moyens de manger correctement. Ils ne peuvent même pas se payer une boisson. La paix, si elle vient, j'espère que les affaires vont reprendre. Je souhaite de tout cœur qu'elle voie le jour. Mais j'ai peu d'espoir. Parce qu'il y a toujours des gens qui font tout échouer. On a déjà connu ça. On devait avoir la paix il y a quelques années. Et puis chacun disait quelque chose de différent et ça n'a pas marché. Quand on regarde de près, le président de la République, le président de ce pays, ne s'intéresse pas à la paix. Il délègue tout ça au président d'un autre parti, de Bahçeli. Le président ne participe pas au dialogue. Je pense qu'il se fiche de la paix. Aujourd'hui, l'économie s'est effondrée et lui aussi va s'effondrer et partir. En juillet 2017, je m'en souviens, j'étais dans ce restaurant. Le foie coûtait 16 livres. On pouvait voir des familles entières de 5-6 personnes. Ils venaient manger, ils prenaient des desserts, ils buvaient et cela leur coûtait 250 livres. Et aujourd'hui, juste un plat de foie, c'est 350 livres. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Comment cela a pu augmenter autant en 8 ans? Je ne peux même pas vous dire si les prix, c'est x3 ou
x20.
J'ai eu un client venu d'Irak ce printemps, il m'a dit, l'an dernier, avec 1 000 $, je pouvais passer des vacances pendant 15 jours, tout compris. L'hôtel, la nourriture, les visites. Aujourd'hui, avec la même somme, je peux rester maximum 10 jours. Je perds une semaine. Où est passée cette semaine?
Mehmet dit qu'il n'a jamais connu de Nowruz aussi triste.
J'étais ici en 2013 quand ça a tapé. Si tu regardes les festivités de Nowruz de l'époque et celles d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. À l'époque, une semaine avant la fête, la ville se remplissait de voitures. Il y avait de la musique partout. Mais aujourd'hui, on n'a vu qu'une seule voiture passer dans la rue pour fêter Nowruz. Avant, ce n'était pas comme ça. On en parlait d'ailleurs aujourd'hui à la maison. À l'époque, il y avait du monde partout. Les gens dormaient dans leurs voitures, les hôtels étaient pleins. Aujourd'hui, tu vas là-bas, il y a des barrières partout. Tu leur demandes si tu peux passer, ils disent non. La dernière fois que j'y suis allé, quand j'ai vu toutes ces barrières, ces grilles métalliques, je suis parti. Et je ne suis plus retourné fêter Nowruz. Je ne vais pas attendre derrière les barrières qu'ils ouvrent. Non. Avant, on avait un leader du parti, Demirtas. cela nous donnait du courage. Là, si les deux parties s'entendent, il n'y aura pas d'affrontement. Mais si chacun défend ses intérêts, ça n'arrivera pas. Il y a des gens dans la montagne qui résistent depuis 40 ans. S'ils ont pris les armes, c'est qu'ils ont des raisons. Il faut s'en préoccuper, les prendre en compte. Batcheli nous dit « rendez les armes et partez ». Et ils vont partir où? Ils disent « ceux qui n'ont rien à se reprocher pourront rester en Turquie, les autres qu'ils aillent en Europe ». Mais pourquoi iraient-ils en Europe? Ils ont leur père, leur mère, leur maison, leurs enfants ici. Ils sont chez eux ici. Ils doivent pouvoir rentrer chez eux. Ici, tout le monde part, ça s'est vidé. Si tu élèves la voix, soit on te met en prison, soit on te tape sur la tête. Alors il faut s'enfuir en Europe? Jusqu'où ça va aller comme ça? Les hommes politiques, les chercheurs, les intellectuels ont dû émigrer. Jusqu'à quand vont-ils devoir s'exiler en Europe? Et pourquoi devraient-ils y aller? Ce qu'il veut, c'est que tout le monde parte pour avoir le pays tout à lui. Avec tout ce qui se passe, je n'ai aucun espoir. Et je n'aurai jamais d'espoir. Tout cela me consume. Dans un pays où il n'y a pas de justice, un pays corrompu, il ne pourra y avoir de paix ou même de sérénité. Et l'économie ne pourra pas se rétablir. Il n'y a pas de lumière.
Ne barış gelir, ne huzur gelir, ne ekonomi düzelir abim. Işık yok çünkü.
C'est à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Diyarbakır, dans la petite ville de Bismil, que nous allons rencontrer la famille de Tekdar. Tekdar, un jeune qui a pris le maquis il y a 13 ans de cela, il avait alors 25 ans. Depuis, ses parents n'ont aucune nouvelle.
Merhaba.
Sur le canapé du salon, autour d'un thé, Fatma, sa mère, essuie une larme.
Mon fils a fait de la prison et ils l'ont envoyé au service militaire. Il est revenu en permission et il a disparu. Il est parti en montagne et n'est jamais revenu. Il est devenu un combattant de la guérilla. Il est parti pour défendre ses droits. C'est la seule raison. On n'a pas de mère patrie, pas de justice. C'est fini la justice. C'est comme ça. Cela fait 13 ans. On n'a aucune nouvelle. Je ne sais pas s'il est vivant ou mort. On ne s'y attendait vraiment pas. C'est arrivé soudainement. Il est sorti de la maison en disant qu'il allait repartir au service militaire et on ne l'a plus revu. Cela m'a rendue folle. Je l'appelais, mais son téléphone ne répondait pas. J'ai appelé plusieurs fois. Je suis sortie, je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas retrouvé. Puis ses copains m'ont dit qu'il était parti rejoindre la guérilla. 13 ans. Et aucune nouvelle. On sait que dans son groupe, il y en a un qui a été tué. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvé. Je suis allée jusqu'en Syrie. Personne n'a pu me donner de nouvelles. Je comprends mon fils. Il est parti pour le Kurdistan. On a fini par accepter. On n'avait pas le choix. Ce serait bien s'il y avait la paix. Mais ça voudrait dire que son combat n'aura servi à rien. Parce que je ne crois pas à la paix, vraiment. Je ne leur fais pas confiance. Ces gens-là ne sont pas droits. Ils parlent tout le temps de paix, mais malheureusement, elle n'arrive jamais. Mais moi, je suis fière de mon fils.
Son père, Souleyman, aussi. Engagé également, il a fait de longues années de prison et s'est résolu à ne jamais revoir son fils unique.
Cette cause, c'est aussi la mienne. J'ai perdu tant d'amis. Il y a eu ces milliers de morts. Tous nos jeunes sont dans la montagne. J'étais content quand mon fils est parti. C'est un combat, c'est la guerre, c'est une guerre juste. Si ce pays était régi par le droit et la justice, il n'y aurait pas tout cela. Ils sont assoiffés de sang. Ce processus de paix, on le soutiendrait s'il était mené de manière juste et honorable. Sinon, le PKK ne l'accepterait pas. Si c'est démocratique, si chacun peut s'affirmer et dire « je suis kurde » et prononcer le mot « Kurdistan », alors pourquoi la paix ne viendrait-elle pas? Mais dans le cas contraire, cela fait 40 ans qu'ils se battent. Tu crois qu'ils déposeront les armes et se rendront? Qui va accepter? C'est impossible. Pour que ça marche, d'abord, il faudrait que dans la constitution de la République turque, il y ait les mots « kurde » et « Kurdistan ». Et puis, s'occuper de l'avenir des combattants, parce que mon fils, il se rend, mais qu'il le remette en prison, il ne reviendra pas. Personne ne reviendra. Ils resteront tous au Rojava.
Ce n'est que l'un des points sensibles qui devrait être surmonté et personne ne l'aborde publiquement. Que deviendront ces milliers de combattants? Une amnistie est-elle possible? Et sinon, pourquoi, disent tous ici, accepteraient-ils de se rendre?
Et c'est sur cette chanson où l'artiste kurde Aynur Doğan évoque les combattants kurdes que se termine ce reportage. Turquie, une paix est-elle possible avec les Kurdes du PKK? C'est un grand reportage de Marie-Pierre Véraud, réalisé par Riyad Kerat.
Catherine Pétillon.
Et pour en parler, nous sommes toujours en studio avec vous, Kubra Saher, chercheuse en sciences politiques à l'EHESS. Alors on entend dans ce reportage de Marie-Pierre Véraud ces réactions mitigées de la population kurde de Turquie, un mois après l'appel du chef et fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, ce mélange d'attente et de défiance, voire de résignation. Comment vous le comprenez? Comment vous l'interprétez?
En premier, merci de m'avoir invité. Et oui, c'est un peu, ça a commencé l'octobre dernier avec le parole de Devlet Bahçeli, le leader de MHP, le parti ultranationaliste turc en Turquie. Après, ça a continué avec l'appel de Öcalan et les entretiens entre d'un parti, le parti pro-kurde et avec l'État turc. C'était, quand on pense à ces dernières quelques années, c'était un peu imprévu. Mais maintenant, surtout avec les développements géopolitiques au Moyen-Orient, on pourrait imaginer qu'il va se passer quelque chose avec la question turque en Turquie aussi.
Parce que précisément, ce n'est pas la première fois qu'il y a une tentative de processus de paix. Finalement, pourquoi, selon vous, maintenant, une nouvelle tentative? Qu'est-ce qui change?
Moi, je crois que c'est plutôt relié à les développements géopolitiques, au Moyen-Orient, en fait. Depuis 7 octobre, le Moyen-Orient est plus le même. Du coup, il y a eu beaucoup de changements, surtout par rapport à la Syrie, la chute de la régime d'Assad en Syrie, l'affaiblissement de l'Iran dans la politique extérieure, l'affaiblissement de Hezbollah. Du coup, tous les changements ici, ils ont eu un impact sur la question kurde en Turquie aussi.
Est-ce que c'est la rencontre de ces deux questions, la question interne, avec des modifications aussi internes au pays qui rencontrent ce changement de situation internationale ?
Je crois que c'est plutôt les changements dans la situation internationale, mais aussi il y a des situations internes aussi, bien sûr.
Marie-Pierre Véraud, à Istanbul, vous êtes, cet appel, il est perçu comment ? Comme une reconfiguration nationale ou plutôt comme ce changement extérieur évoqué par Kubra Saher ?
Oui, c'est vrai qu'il y a les deux dimensions. Hein. Effectivement, la chute de Bachar el-Assad a complètement changé la donne, en tout cas vu de Turquie pour la question kurde, puisque les Kurdes, hein, qui jouissaient d'une autonomie quand même très forte, hein, sous Bachar el-Assad, qui commande une région importante, riche en pétrole, qui avait une certaine autonomie, notamment culturelle, vis-à-vis de leur langue, un drapeau, etc. Là, avec la chute de Bachar el-Assad et avec un nouveau pouvoir qui est soutenu, hein, par la Turquie, Erdogan c'est sans doute dit, c'est le moment peut-être de régler une bonne fois pour toutes la question kurde, de faire intégrer ces Kurdes dans un État-nation syrien à construire et d'enlever, si vous voulez, cette épine du pied en n'ayant pas comme ça des places fortes kurdes qui pourraient donner envie aux Kurdes de la région et notamment à ceux de Turquie de recréer ce grand État, même si on en parle le plus trop. Mais il y a aussi, je pense, une dimension de politique intérieure, hein, turque. Parce que vous savez, il y a eu des municipales en 2024. L'AKP, le parti du président Erdogan, a été lourdement défait. Hein. Il a perdu toutes les grandes villes. Il a été ébranlé dans pas mal de ses fiefs. Et désormais, le premier parti de Turquie, c'est le CHP, c'est le Parti républicain du peuple, le parti d'opposition. Et Erdogan s'est rendu compte, en fait, qu'il ne pourrait plus gagner d'élection tant que le parti kurde et ses électeurs soutiendraient le CHP, soutiendraient le parti républicain du peuple, parce que il a tenté de fracturer le CHP, il a pas vraiment réussi. Donc là, il voudrait le priver de voix indispensable pour l'emporter. Vous savez que les Kurdes, on les présente souvent comme les faiseurs de rois ici dans les élections, et Erdogan souhaite les dissocier du parti d'opposition. Et en fait, d'une certaine manière, on peut dire qu'il réussit en partie, en tout cas pour l'instant, puisque vous savez qu'il a fait emprisonner le maire d'Istanbul, hein, Ekrem İmamoğlu, l'opposant sans doute le plus redoutable pour les prochaines présidentielles. Et si le parti pro-kurde, l'ÖDEM, a condamné cette décision, eh bien, il n'a pas appelé ses partisans à descendre dans les rues lors des manifestations qui ont éclaté depuis maintenant plusieurs semaines. Et pas mal de personnes, hein, que j'ai rencontrées en Diyarbakır m'ont dit, en fait, ce qui arrive aujourd'hui au CHP, au parti d'İmamoğlu, avec cet emprisonnement, c'est ce qui nous est arrivé. Quand on a emprisonné Demirtaş, on ne les a pas vus, eux, se mobiliser à nos côtés. Maintenant, c'est leur tour. Ils voient ce que ça fait. Ils ont aussi droit, eux, au Kayyum. Hein. Vous savez, ce sont des administrateurs qui sont nommés par l'État turc à la place de maires élus qui sont destitués. Et effectivement, c'est arrivé, bien sûr, aux Kurdes. Hein, et ça continue. Et c'est aussi désormais le cas pour le CHP, notamment à Istanbul. Donc, si vous voulez, ils disent, les Kurdes, quand on touche à la on nous touche à nous, on touche à la démocratie et ça finit par concerner le reste de la population. Eh bien là, nous y sommes.
Alors sur ce
et
point...
pour l'heure, si vous voulez, juste d'un petit mot. Hier, ils ont rencontré, hein, le DEM Parti a rencontré le président Erdogan. Ils se sont dit confiants à l'issue de l'entretien, plus optimistes que jamais. Et en fait, ils ne veulent pas laisser passer cette chance de paix. Ils ne vont pas la compromettre en rejoignant le CHP. Et en ce sens, le président Erdogan joue une carte là qui pourrait affaiblir effectivement son opposition.
Kubra Saher, il y a peut-être un paradoxe qu'il faut expliquer. Marie-Pierre Véraud évoquait à l'instant la demande de démocratisation qui est au cœur de cette demande d'un processus de paix et qui coexiste avec un autoritarisme de plus en plus grand du pays. Comment vous expliquez, vous comprenez cette coexistence qui peut sembler paradoxale ?
À mon avis, et je crois que c'est aussi partagé avec les électeurs kurdes aussi, ce sont deux sujets différents. Le processus de paix avec les Kurdes et l'arrestation d'İmamoğlu, ils sont vraiment au niveau de politique interne. Ce sont les deux choses différentes. Et oui, ça a eu un impact sur la confiance des électeurs kurdes, surtout sur le sujet de démocratisation. Mais quand même, je crois qu'ils vont encore rester sur le point de continuation de la processus de paix. Du coup, oui, et historiquement, bien sûr, il n'y avait pas une grande coalition, même si on regarde la longue durée, il n'y avait pas du tout coalition entre le CHP, le parti kémaliste et les Kurdes. C'est très récent, surtout après les élections en Istanbul en 2019. ça a devenu un peu de facto, un soutien de facto des électeurs kurdes pour İmamoğlu. Mais ça n'a pas de route en histoire. Du coup, maintenant, oui, ça a eu une influence sur les électeurs kurdes, surtout les électeurs d'un parti. Mais je crois que le soutien pour le processus paix est toujours en question, c'est toujours continué. Et je crois que par le gouvernement aussi, le regard est un peu... En fait, quand on parle de démocratisation de la Turquie et l'arrestation de l'İmamoğlu, on ne parle pas de la même chose. Ce sont différentes.
Dans l'histoire et dans le temps, il y a eu plusieurs étapes et une évolution aussi des revendications du PKK. Finalement, aujourd'hui, enfin, la demande initiale d'un État a finalement été abandonnée il y a quelques temps déjà. Finalement, qu'est-ce que le PKK peut négocier et véritablement attendre aujourd'hui de Recep Tayyip Erdogan?
Je crois que maintenant, on n'est pas en train de parler des demandes de la PKK ou la société kurde peut-être. Maintenant, la première étape, ça, à mon avis, ce que le gouvernement a prévu, c'est tout d'abord déposer les armes et après on va parler de la politique. Dans le cadre de politique démocratique, on va parler sur les demandes de la Kurde, comment on peut faire pour résoudre la question turque en Turquie. Question kurde en Turquie. Du coup, en première étape, ça peut être le dépôt des armes et après, on peut, dans le cadre de politique démocratique, on peut parler de la solution. Mais je crois que ce sont surtout les avancées juridiques plutôt. Dans la constitution en Turquie, on va redéfinir le terme de citoyenneté. Les Kurdes peuvent être une partie de la pays, mais jusqu'à maintenant, ils ont totalement ignoré. Mais maintenant, ils peuvent être acceptés. Et surtout, je crois que le processus, comme j'ai dit, c'est un résultat de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Ça va avoir un impact sur Rojava, c'est-à-dire l'ouest de Kurdistan, au nord-est de la Syrie. À Rojava, il y a un statut en autonomie de facto des Kurdes. Ça peut être soulevé à la fin de ce processus de paix en Turquie.
Parce qu'il faut peut-être rappeler... Marie-Pierre Véraud, vous voulez intervenir?
Oui, mais c'est vrai que ce découplage, hein, d'une part, d'abord, vous déposez les armes, en quelque sorte, vous capitulez et vous dissolvez le parti. Et ensuite, on discutera de la démocratisation, de la place du Kurde, de la place des Kurdes, etc. C'est quelque chose que la société kurde, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés, que j'ai pu voir à Diyarbakır, ne comprennent pas. Il y a quand même une absence de transparence dans ces discussions qui les troublent beaucoup. Ils voudraient qu'on libère les prisonniers politiques, notamment les plus vieux et les plus malades. Ils voudraient qu'on remette en place les maires kurdes qui ont été élus et qui ont été destitués. Ils voudraient qu'on reconnaisse la langue kurde. Ils ne comprennent pas que Jalan, en fait, qui reste un leader incontesté, ait pu lancer un tel appel sans en même temps demander malgré tout à la Turquie d'avancer sur cette voie de la démocratisation, en tout cas publiquement.
Car il faut peut-être préciser aussi, Marie-Pierre, que depuis cet appel, les pressions sur les Kurdes, sur les élus par exemple, n'ont pas cessé.
Oui, il y a eu des destitutions depuis le mois d'octobre, hein, notamment à Van, à Mardin ou encore à Batman. Il y a eu des bombardements dans le Rojava, mais effectivement, il y a de fait un cessez-le-feu, hein, qui a été décrété d'ailleurs par le PKK. Il n'y a plus de combat pour l'instant et il n'y a plus d'affrontement entre l'armée turque et les Kurdes de Turquie. Mais hormis cela, si vous voulez, pour l'heure, l'appel n'a pas vraiment changé quoi que ce soit, quoi, leur situation.
Kourassaer, sur cette idée évoquée par Marie-Pierre Véraud, en quelque sorte d'une capitulation sans condition, comment vous voyez ça?
Oui, je suis d'accord avec madame. Je crois que, en fait, la lettre d'Öcalan, c'était assez vaste, c'était assez abstrait, c'était pas du tout concrète. Mais je crois qu'en fait, par les délégations, même par la délégation d'un parti ou par le gouvernement, ces sujets-là sont un peu détails, en fait. Ils vont, en premier, commencer le processus ou continuer et faire rendre quelque chose en certain. Et après, ils vont commencer de parler de tous ces détails-là. Comme j'ai dit, en fait, je ne sais pas s'ils sont en train de parler sur ces sujets-là, sur les prisonniers, sur les droits culturels des Kurdes. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, on sait pas du tout qu'est-ce qui sont les capitulations, comme vous avez dit. Et je crois que oui, en fait, la société kurde est en train de se demander mais qu'est-ce qu'on va gagner à la fin de ce processus-là. Mais rien n'est certain en vrai.
N'est certain, il y a eu beaucoup d'opacité, on le comprend. On comprend aussi dans la lettre, dans l'appel de Chalane, qu'il y a quand même deux choses différentes. C'est le feu déposer les armes et la question d'une dissolution éventuelle du PKK. C'est deux questions distinctes.
Je crois que oui, ils sont reliés à l'un de l'autre. Il faut dissolver les armes et comme ça, on n'a aucune demande politique ou comment dire nationale. Du coup, oui, moi, je crois que ils sont reliés.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, les Kurdes sont présents dans d'autres pays, en Syrie, en Irak, en Iran. Quelles conséquences cet appel peut avoir sur les Kurdes de ces autres pays?
Oui, bien sûr, comme j'ai dit déjà, en fait, ça va avoir un grand impact sur le Rojava, sur le nord-est de la Syrie. Et je crois que maintenant, le Rojava est sous la menace de la Turquie. Il y a des attaques militaires, il y a aussi des attaques politiques. Et je crois que ce processus-là, ça va empêcher ou ça va prévenir les attaques de la Turquie sur le Rojava. Il peut avoir de bonnes relations avec le Rojava quand le PKK est plus en question. C'est résoudre. Et du coup, il n'y a aucune raison d'être contre le Rojava aussi. Et en plus, maintenant, il y a les bonnes relations, les bons termes entre le gouvernement, l'autonomie de facto de Rojava avec le régime central en Syrie aussi.
Du coup, c'est ça qu'il faut peut-être réexpliquer pour nos auditeurs. C'est qu'en Syrie, finalement, la chute de Bachar el-Assad a rebattu les cartes et que les Kurdes, qui avaient une grande autonomie culturelle, économique, doivent redéfinissent en ce moment leur existence, leur relation avec le pouvoir. Finalement, pour eux, ils sont aussi à l'origine de ces reconfigurations-là du mouvement?
Oui, bien sûr. La Syrie, maintenant, en Moyen-Orient, c'est une des plus importantes, la question plus importante. Et les Kurdes, maintenant, ils sont une grande force en Syrie et qui ont un impact sur les autres pays comme la Turquie. Et du coup, depuis 2012, ils ont une autonomie de facto, mais c'était vraiment pas reconnu. Mais maintenant, ces dernières semaines, il y a eu un accord avec le régime central, le gouvernement central de HTS ou Ahmed al-Shara, entre le Mazoum Kobane et Ahmed al-Shara. Du coup, ça, en fait, c'est de facto reconnu. C'est reconnu internationalement aussi. Et du coup, maintenant, pour la Turquie aussi, ça devient moins et moins dangereux. Parce que, comme on sait déjà, une grande partie de la population kurde s'est située en Syrie, Irak, Iran aussi. Du coup, un changement dans ce pays-là, il y a aussi un effet sur la population kurde en Turquie aussi. Du coup, les avancements dans les autres pays par rapport aux Kurdes, ils ont des effets, des impacts sur la Turquie, bien sûr.
C'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des progrès dans les négociations entre les Kurdes du Rojava et le gouvernement central à Damas. Il y a des factions kurdes qui se sont retirées des quartiers, notamment Ashrafieh, Sher Massoud, à Alep, qu'elles occupaient, pour rejoindre le Rojava. Les factions pro-turques, elles, commencent à quitter Afrin pour permettre aux Kurdes qui avaient été déplacés de retrouver un petit peu cette région aussi. Donc, on voit bien que les discussions avancent. La vraie question, ça sera, et c'est fondamental aussi pour la Turquie, bien sûr, ça sera l'intégration des combattants kurdes à la future armée syrienne. C'est-à-dire sous un commandement unique et qu'il n'y ait plus cette autonomie des armes et du combat. Bon, ils sont très soutenus par les États-Unis encore, mais qu'ils intègrent vraiment cette armée nationale. Et là, la Turquie sera un petit peu rassurée. Enfin, le gouvernement turc, disons, sera rassuré.
Il y a aussi la situation des Kurdes en Iran, puisque le PKK a installé ses bases au Kurdistan irakien. Et puis finalement, au fil des années, le conflit s'est de facto un peu déplacé en Irak. Donc c'est là-bas aussi que va se jouer l'avenir de l'organisation. Mmh. Est-ce que les Kurdes là-bas sont prêts à rendre les armes? Est-ce que on a entendu la place qu'a Öcalan, bien qu'emprisonné auprès des Kurdes en Turquie? Est-ce qu'il a encore la même audience ailleurs, notamment auprès des Kurdes en Irak?
D'accord. Quand on parle de Jalan, on parle de PKK, en fait. C'est qu'une partie kurde en Moyen-Orient. Il y a bien sûr, bien évidemment, des différentes parties kurdes aussi, en Iran, en Irak, en Syrie. Du coup, l'appel de Jalan, c'est que pour le PKK. Mais bien sûr, les autres parties, les autres organisations en Irak, on parle d'un statut fédéral qui est reconnu par la communauté internationale aussi. Et ils n'ont aucune envie de déranger la Turquie parce qu'ils ont des relations politiques, des relations financières, financières. Du coup, en fait, ils sont vers la Turquie. Ils veulent un accord avec la Turquie. Ils ont des bons termes avec la Turquie. Du coup, cet appel de Öcalan qui est pour le PKK est soutenu par les autres partis ou organisations au gouvernement kurde aussi. Ça, en fait, c'est positif pour eux aussi. Et du coup, ils n'ont déjà pas lié à PKK et l'appel n'a pas pour eux, mais ils sont en train de soutenir.
Mais ça veut dire que pour vous, il n'y a pas forcément... Enfin, on entend qu'il y a un certain nombre d'organisations kurdes dans la région qui sont à la fois distinctes et indissociables du PKK. Est-ce que, même s'ils soutiennent cet appel, est-ce que la fin éventuelle du PKK peut finalement entraîner une reconfiguration du mouvement kurde dans la région ?
Oui, bien sûr. Comme vous avez dit, il y a des bases militaires de la PKK en Irak, Iran aussi. Du coup, s'il n'y a plus de PKK, s'il y a une dissolution, du coup, ça va avoir un grand impact sur les relations entre la région du Kurdistan, l'Irak, l'Iran, la Syrie, avec la Turquie aussi. Oui, vous avez bien raison.
On l'a entendu, il y a beaucoup d'opacité dans les discussions. Finalement, de votre point de vue, à quelles conditions aujourd'hui ce processus de paix peut avancer, réussir ou au contraire échouer ? À quelles conditions on peut avancer ?
C'est vraiment un peu compliqué. Il faut rester prudent dans notre lecture parce que même en Turquie ou au Moyen-Orient, on peut jamais imaginer la future. Mais je crois que maintenant c'est en train d'avancer. Je crois que en Turquie, on a vu hier, il y avait une rendez-vous entre la délégation de d'un parti et Erdogan. Je crois que ça avance. Ça avance et c'est positif, mais maintenant on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en fait. On n'a pas de détails et pour la future, on ne peut pas imaginer, je ne sais pas.
Quelles seront les prochaines étapes à suivre de discussion ?
Je crois que la question de déposer les armes, le dépôt des armes, c'est vraiment essentiel ici. Je crois que le gouvernement insiste que le PKK dépose les armes et après les détails vont suivre.
Eh bien, merci beaucoup, on le comprend, le moment est compliqué à lire, mais d'une façon ou d'une autre viendra reconfigurer la place du PKK en Turquie et dans la région. Merci Kubra Saher, je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'EHESS. Merci également à la documentation de Radio France et à Caroline Beneteau. Turquie, une paix est-elle possible avec les Kurdes du PKK ? C'était un reportage de Marie-Pierre Véo, réalisé par Riyad Kera. À la technique aujourd'hui, c'était Ludovic Auger. Ce grand reportage et tous les autres sont à écouter, à partager à l'infini depuis notre site France Culture et l'application Radio France.